en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Cette émission voudrait vous proposer d'évoquer la figure d'André Frossard, qui fut tout à la fois académicien à l'Académie française, élu en 1987, mais aussi écrivain et un converti. Son récit « Dieu existe, je l'ai rencontré », publié en 1969, avait rencontré un très vif succès. Il était surtout journaliste et on se souvient de son billet quotidien « Cavalier seul » dans le Figaro durant de nombreuses années. On estime à peu près 15 000 le nombre de ses articles parce qu'il a rédigé dès après la guerre. André Frossard fut incontestablement un homme de presse de grande notoriété, mais ce n'est pas cet aspect-là que nous évoquerons aujourd'hui, mais peut-être des moments plus douloureux de sa vie qui sont liés à l'histoire de la France sous l'occupation allemande. Et pour nous raconter ces moments, et comment André Frossard les a vécus, comment aussi il a sans doute pu les surmonter, j'ai invité quelqu'un qui l'a bien connu, maître Christian Charrière-Bournazel, qui est avocat, qui fut bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris jusqu'en 2010 et qui est aujourd'hui vice-président du Conseil national des barreaux. Bonjour maître.
Bonjour madame.
Soyez le bienvenu dans le studio de Canal Académie. Nous sommes heureux de vous accueillir. Je voudrais ajouter, si vous me le permettez, que vous êtes un avocat engagé, c'est-à-dire un avocat qui a beaucoup milité, qui est dans des associations et notamment, vous avez été président de la Fédération de Paris, de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Et c'est important parce qu'avec cela, on va comprendre le rapport qui vous a amené à connaître André Frossard. Comment l'avez-vous connu ?
D'abord, merci de m'accueillir. J'ai connu André Frossard parce que j'avais été appelé à participer au procès de Klaus Barbie en 1987 à Lyon, parce que la fille d'un très grand résistant et d'un martyr de la résistance, le professeur André Gompel, sa fille Nicole avait demandé à être partie civile pour la mémoire de son père, et mon ami Alain Feder et moi-même étions les avocats qu'elle avait choisis. Je vais essayer de ne pas raconter mes souvenirs, mais je ne peux pas faire abstraction du dossier qui m'était confié et qui était celui d'un homme que je n'avais évidemment pas connu, puisqu'André Gompel était mort avant ma naissance. C'était un homme remarquable. Il était professeur au Collège de France, un grand savant qui avait mis au point plusieurs remèdes et généreux, puisqu'il avait l'habitude de déposer des brevets au nom de ses salariés, de ses collaborateurs. Il avait en plus dirigé un grand groupe de magasins pour dames, les Dames de France. Bref, c'était un grand bourgeois et il avait été arrêté place Bellecour au moment d'une descente des nazis sur la place qui avait obligé les personnes à se mettre en deux groupes distincts, les juifs d'un côté, les autres de l'autre. Or, André Gompel, qui portait un patronyme qui, comme en Alsace, pouvait aussi bien désigner un protestant, un chrétien qu'un juif, avait choisi d'aller du côté des juifs. Et sa fille, Nicole, a toujours pensé, et elle a raison, que c'était pour attirer l'attention sur sa qualité de juif et la détourner d'un document qu'il portait sur lui, qui était une lettre à partir de laquelle on pouvait comprendre qu'il avait été résistant et qu'il connaissait des membres des réseaux. Barbie l'a fait arrêter, et Barbie, qui ne s'en laissait pas compter, découvrant cette lettre, l'a d'abord suspendu par les pieds au-dessus d'une cuvette d'ammoniac. Il avait 62 ans à l'époque. Il a ensuite subi le supplice de la baignoire, sans parler. Et quand il est entré dans le coma et que Barbie a pensé qu'il était en train de mourir, il l'a fait ranimer à l'eau bouillante et l'a fait enfermer à la baraque aux Juifs de Montluc, à côté de Lyon. Et la baraque aux Juifs, André Frossard s'y trouvait. Il y restait, d'ailleurs, de décembre 1943 à mai 1944.
Il avait été arrêté lui aussi.
Lui-même, oui,
comme
il avait
juif.
Une grand-mère juive.
Voilà.
Et André Frossard se trouvait donc dans cette prison où il n'y avait pas d'ailleurs seulement des Juifs. Il indique dans son témoignage au procès Barbie qu'il y avait une proportion variable. Et puis à la fin, il n'y avait plus que des Juifs, avec le temps qui avait passé. Et c'est André Frossard qui a recueilli entre ses bras le malheureux Gompel, dont il dira au cours du procès Barbie qu'il était d'une incroyable dignité, évitant de se plaindre, souffrant mille maux puisqu'il était brûlé au troisième degré. Ses compagnons, comme Frossard, lui arrachaient de temps en temps des peaux mortes. Et c'est le troisième ou quatrième jour, quand le conduisant dans ce qu'on appelle les tinettes, ils l'ont aidé à s'asseoir et ses douleurs étaient atroces. Et il est mort à cet endroit-là, sans avoir reçu aucun soin d'aucune sorte. Et André Frossard, qui avait vécu dans la baraque aux Juifs de Montluc, a été cité au procès Barbie pour témoigner de ce qu'il avait vu.
C'était longtemps après le procès, n'est-ce pas?
Alors le procès avait lieu en 87, c'est-à-dire 43 ans après que André Frossard était sorti de la baraque aux Juifs.
Mais Frossard avait tout de suite écrit après le procès l'histoire ou...
Non. Il avait commencé une méditation extrêmement profonde qui a été par lui explicitée à l'occasion de ce témoignage et qui est passionnante parce que André Frossard ne cherche pas à faire un témoignage d'émotion, ne se laisse pas surprendre par les très légitimes vibrations de son cœur, mais exprime avec une force et une sorte de sagesse qui est celle de celui qui a vécu l'horreur, ce qu'est en fait le crime contre l'humanité. Il est venu en expliquant d'abord qu'il n'avait aucune crainte et aucune haine. Vous l'avez...
Oui, dans le petit livret que vous avez consacré à André Frossard et qui s'intitule « Le crime d'être né ».
Et qui reproduit surtout l'intégralité de son témoignage.
Voilà. Pratiquement l'intégralité. Il y a à la page 12 ce texte que je vais vous demander de lire. Comment Frossard, après que le président du tribunal l'invite à témoigner en disant toute la vérité, qu'est-ce qu'il dit ?
Alors c'est la formule qui est celle du témoin à qui le président demande de s'exprimer. Alors vous avez le texte littéral. Lorsque le président Serdini lui dit « Monsieur Frossard, vous jurez de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « Je le jure », c'est la formule habituelle. Frossard dit « Je le jure ». Le président lui demande « Nous vous écoutons, faites votre déposition ». Et Frossard reprend « Je viens de jurer de parler sans crainte. Ce ne sera pas difficile. Sans haine, c'est un sentiment que je n'ai jamais connu de ma vie. » Et je trouve que cette introduction à son témoignage est déjà très forte. Il n'a pas peur et il n'a pas de haine. Il n'a pas de haine, mais il a en revanche une perception extrêmement aiguë de ce qu'il a vécu. Nous sommes, vous l'avez remarqué très justement, madame, longtemps après les faits. Et moi, un soir où j'avais dîné avec mon ami Feder, André Frossard et sa femme, je lui ai posé très naïvement et de manière un peu bête la question. Je lui avais dit, mais à la baraque aux Juifs de Montluc, votre foi chrétienne a dû vous soutenir, là, vous avez dû trouver des ressources dans la prière. Il m'a répondu, vous m'en fichez de bonne. On tremblait de peur du matin au soir. C'était des cavalcades dans les couloirs, des bruits de portes qu'on ouvre et qu'on referme, des bruits de serrures.
L'angoisse.
Et ceux qu'on allait ainsi chercher dans leurs cellules, c'était des otages qu'on allait fusiller dans la cour et on entendait le bruit. Et à chaque fois que quelqu'un passait dans le couloir, on tremblait de peur en disant, c'est peut-être moi. Et donc, cet homme qui a eu toute sa vie une grande fermeté dans l'affirmation de ses convictions, qui a été un résistant pendant la guerre, arrêté comme je vous l'ai dit, a connu aussi la peur. Et ce n'est pas déshonorant d'avoir peur. Bien sûr, le vrai courage, c'est celui qui domine la peur, justement, et qui permet d'aller plus loin. Alors, si vous voulez, ce qui a été dit par Frossard, je pense que ce qui est le plus intéressant, il l'écrira ensuite, beaucoup plus tard, dans un livre, qui paraîtra dans les années 90, il est mort le 2 février 95, et il a écrit un livre qui s'appelle « Le crime contre l'humanité ».
Chez Robert Laffont, en 88 exactement.
Et malheureusement, ce livre est épuisé, il a paru en livre de poche, je n'ai pas réussi à le retrouver récemment, je lance presque un appel aux éditeurs, rééditez ce livre, c'est un livre admirable. Car dans ce livre, qu'après le temps qui a passé, la profondeur d'une réflexion dans le silence, qu'il a écrit ce qu'il a écrit. Et si je peux me permettre, je voudrais d'abord évoquer ce qu'il a raconté de ce qu'il a vu. Par exemple, quand il décrit cette baraque aux Juifs de Montluc, il dit « C'était une espèce de péniche de l'armée du salut, tenue en désordre par une espèce de roulis dévastateur. On y vivait comme des morts en sursis. Nous avions tous l'impression d'être des cadavres qui avaient la permission momentanée de vivre debout, car c'est dans la baraque aux Juifs que l'on prélevait la plus grande partie des otages. » Et il raconte des choses terribles. Il raconte par exemple l'histoire de cette femme avec un bébé sur les bras qui est poussée par un soldat en armes vers la cave. Et le SS, qui précisément était le même que celui qui l'avait amené à la baraque aux Juifs, lève les bras au ciel en la voyant passer en disant « Ah, c'est tout Israël !» Et Frossard commente « C'était en effet tout Israël. Et il ne venait pas de la part Dieu ou de la guillotière. Il venait du fond des âges. Cela faisait 3000 ans que cela durait. Ils venaient de la captivité de Babylone. C'étaient les mêmes juifs qui, depuis le commencement des temps, portent les péchés du monde. Aussi, dans la baraque aux Juifs, la distinction était toujours très nette entre les Juifs et ceux qui ne l'étaient pas, ou qui, comme moi, ne l'étaient pas à part entière. Et alors, sur cette première distinction entre celui qui est juif et celui qui ne l'est pas, va se greffer l'idée, mais pourquoi cette haine? Qu'est-ce qui caractérise cette haine? Et ce sont encore des comportements des nazis qui lui montrent l'étendue de cette haine. Par exemple, cet homme qui dit et qui oblige à dire à un malheureux prisonnier, un homme simple et bon de la rue des Rosiers, « Le juif est un parasite qui vit sur la peau du peuple arien, il faut l'extirper. » Et Froissart explique comment le nazi oblige l'autre à l'apprendre en allemand et à le dire, et au moment où il va être fusillé, il dit encore la phrase parce qu'on lui a demandé de la dire. Et quand il définit ensuite le crime contre l'humanité et sa différence avec le crime de guerre...
Oui, c'est important, c'est toute sa méditation, justement.
Voilà. Il est interrogé par l'avocat de Klaus Barbie, Jacques Vergès, qui essaye de niveler tout cela et d'assimiler les tortures commises en Algérie ou les exactions sur les Arabes au moment de cette sale guerre, avec finalement ce qui est arrivé aux Juifs.
Et il dit que ce sont des crimes de guerre. Enfin, il essaie de démontrer voilà. que ce sont. Et Froissart n'est pas d'accord.
Je vous parle de mémoire, mais dit une chose extraordinaire. Les 40 enfants d'Isieux qui étaient logés dans une maison à Isieux, près de Lyon, qui avaient été enlevés à leur famille et qui étaient protégés à cet endroit-là, il dit d'une manière extraordinaire, ce n'était pas la guerre, Isieux. Il n'y a pas eu d'anciens combattants d'Isieux. Il n'y a pas eu de bataille d'Isieux. Il y a eu 40 enfants qu'on nous demande de passer par profits et pertes au nom de la prescription. Et cette première pensée, très forte, est complétée par l'autre. À force d'avoir vu les prisonniers de la baraque aux Juifs, c'est malheureux, se faire humilier, se faire torturer, ceux à qui on avait brûlé les mains en leur faisant tenir des tisonniers bouillants, ceux à qui on avait tapé dans le train arrière, et un malheureux avait une fesse dans laquelle on aurait pu, dit Froissart, loger un ballon, tellement elle avait été cognée et trouée pour leur faire avouer des crimes imaginaires. Et tout cela, et surtout l'humiliation à chaque fois répétée sur, notamment d'abord les Juifs, il en déduit qu'en réalité, le crime contre l'humanité, c'est le fait de considérer que certains n'auraient pas le droit de vivre et qu'il serait criminel d'être né.
C'est le crime d'être né.
Le crime d'être né.
Pour la seule raison qu'on est né, pas du bon côté de la doctrine.
Ils sont coupables. Voilà. Et quand il fait observer que c'est un État extrêmement construit, administré, qui a décidé cette extermination systématique, il caractérise parfaitement ce qui est de l'ordre, vous l'avez dit, de l'idéologie. Un État s'autorise à penser que des gens n'auraient pas le droit de vivre comme des parasites, et donc ils sont coupables parce qu'ils sont venus au monde. Et comme la mort ne suffit pas, il faut, avant de les exterminer, leur représenter qu'ils ne sont rien.
Et les réduire.
Et on les réduit par humiliation successive.
Le piétinement de la dignité, dit Froissart, oui. C'était tout à fait... On les réduit de manière morale. Donc, Froissart a effectivement beaucoup insisté alors sur cette différence entre le crime de guerre et le crime contre l'humanité. À Nuremberg, par exemple, on a jugé des criminels pour crime de guerre ou crime contre l'humanité.
Crime contre l'humanité. Et d'ailleurs, c'est une chose tout à fait intéressante. Les accords de Londres qui ont créé le tribunal de Nuremberg, les accords de Londres disaient en substance qu'il était nécessaire d'aller traquer ces criminels jusqu'à la fin des temps et jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette notion qui fait que ce crime contre l'humanité a un côté qui intéresse l'humanité tout entière, puisqu'il dénie le droit à quelqu'un de faire partie de l'humanité, vous l'avez déjà en germe dans Voltaire. Dans l'article « Délits locaux » du dictionnaire philosophique de Voltaire, Voltaire se livre à une réflexion sur la relativité du droit, sur le fait, par exemple, qu'on peut, c'est lui qui le dit, on peut être coupable en un ou deux points de l'hémisphère et parfaitement innocent dans tout le reste du monde. Mais il ajoute, il y a des crimes qui révoltent l'humanité tout entière. Et donc Voltaire lui-même
avait, à côté
de la relativité du droit, eu l'intuition de crimes qui, eux, surpassent tout et ne peuvent, que d'un bout à l'autre de la Terre, qu'être considérés comme des crimes. Et le témoignage de Froissart était si fort à ce procès que lorsque, près de 10 ans plus tard, pratiquement 10 ans plus tard, je me suis retrouvé aussi comme partie civile au procès de Maurice Papon. Froissart était mort, il était mort 2 ans auparavant, et j'ai demandé et obtenu de la cour d'assises de Bordeaux qu'elle fasse diffuser sur de grands écrans le témoignage que Frossard avait prononcé au procès de Barbie à Lyon, 10 ans plus tôt, et c'était extraordinairement poignant de voir que cette voix, cette langue, était d'une si grande force qu'elle n'avait pas pris une ride, et elle était à la mesure du crime universel, une voix parlant pour l'avenir et à l'universalité des hommes.
Et avec une grande simplicité, je crois que c'était une des caractéristiques de André Frossard, comme vous avez dit, qu'il parlait avec toujours beaucoup de conviction sur ses croyances et sur ce qu'il défendait, mais il en parlait de manière très simple, tout le monde pouvait comprendre, ce n'était pas une complication, c'était vraiment quelque chose d'assez ouvert, d'assez simple.
C'était une langue extrêmement facile à comprendre, vous avez tout à fait raison, sa simplicité n'enlevait rien à sa profondeur, et avec une élévation magnifique vers Dieu. Il dit à un moment donné, dans son témoignage, que c'est même un crime contre Dieu, et contre la création elle-même, que cette oui. négation de l'humain, il certainement a eu à retirer, non pas évidemment un profit, mais un enseignement de sagesse des souffrances de celles qu'il avait vues endurées par de malheureux innocents, et qui ne l'a pas éloigné de la spiritualité, mais au contraire, a approfondi sa recherche de la spiritualité. Et c'est d'ailleurs un phénomène que j'ai constaté à un autre moment au procès Barbie, à travers un témoignage, un autre témoignage extraordinaire, qui était celui d'un homme rescapé d'un camp d'extermination, et qui était venu raconter, il était là dans ce camp depuis peu de temps, ce qu'il avait vécu. Un matin, au-delà des barbelés, il avait vu les élévations qui entouraient le camp hérissées d'hommes en armes. Il avait cru qu'il avait une hallucination. C'étaient les Alliés. Et ces jeunes Américains, Canadiens, Anglais, ont dévalé la petite pente, sont arrivés sur les barbelés et avec de grandes cisailles les ont coupés. Sans qu'on leur oppose de résistance, la guerre était perdue, les Allemands le savaient. Les plus solides d'entre eux, parce que la plupart, quand ils ont vu le spectacle qui s'offrait à leurs yeux, se sont mis à pleurer ou à vomir, les plus solides sont montés dans les miradors, ont ceint les sentinelles, les ont ramenés à l'intérieur du camp et de toutes les baraques sont sortis dans leurs costumes rayés, les tondus, des cadavres vivants, tout un tas de malheureux qui allaient mourir et qui était à l'extrême de l'être. Et l'homme qui vient témoigner dit « Nous avons été stupéfaits de voir nos tortionnaires aux mains des Alliés armés. Comme ils devaient continuer la guerre, ils sont partis et nous ont dit « On vous laisse, mais on reviendra. Et on vous remet des rations de nourriture, des armes, et puis on va vous assigner des tâches. » Alors, ils ont désigné les uns pour enterrer ceux qui allaient mourir, ils ont désigné d'autres parmi nous pour distribuer les rations de nourriture, et puis ils ont remis les armes à quelques-uns qui avaient mission de garder les gardiens. Et ils sont partis, dit le témoin. Et nous sommes retrouvés seuls, armés, en face de nos bourreaux désarmés. Notre seule pensée, notre unique obsession, a été qu'ils ne tombent pas un cheveu de leur tête avant d'avoir été remis à une justice, et nous nous sommes privés sur nos rations de nourriture pour qu'ils ne manquent de rien.
Oui, c'est très émouvant.
L'extrême aussi, de la souffrance, de l'injustice,
la dignité,
qui fait monter en spiritualité les premières victimes qui auraient pu se venger immédiatement et à qui on n'aurait pas pu en vouloir.
Alors, maître Christian Charrière-Bournazel, vous avez en souvenir d'André Frossard publié un carnet chez Des Clés de Brouwer, chez DDB, et ce carnet s'intitule « Le crime d'être né », témoignage au procès Barbie, présenté par vous-même. Donc, vous relatez effectivement les faits, l'essentiel de ce que vous venez de nous dire. Je vous remercie infiniment de cette évocation d'André Frossard. Je pourrais ajouter aussi, puisque je l'ai rencontré de nombreuses fois au Figaro, que la souffrance et l'épreuve lui avaient donné une sorte de bonheur de vivre. Je ne peux pas dire de légèreté, parce que le mot ne serait pas appliqué, mais il était comme un être un peu... Il avait beaucoup souffert et donc il s'était allégé des petits problèmes quotidiens, sans doute.
Et ce que vous dites est tout à fait exact.
Il avait beaucoup d'humour, déjà.
Oui, il est très drôle. Moi, je me rappelle qu'un jour, dans un tout autre contexte, on s'était disputé tout à fait cordialement à propos de Bernanos. Et il l'avait traité d'imbécile et je lui ai dit, c'était un homme admirable. Et puis on s'était un peu disputé. Il m'avait dit, parce que c'est comme ça, je ne viendrai plus jamais témoigner à vos procès. Et je lui ai dit, mais mon cher maître, vous viendrez comme tout le monde et s'il le faut entre deux gendarmes. Et quelques temps plus tard, j'ai eu besoin de lui dans un procès que j'avais intenté pour, au nom de la LICRA contre un négationniste. Et je lui ai téléphoné, je lui ai dit, est-ce que vous venez spontanément, maître, ou je vous envoie les gendarmes? Non, non, je viendrai de moi-même, m'avait-il dit. Car il y avait beaucoup d'humour, en effet.
Merci, maître Charrière-Bournazel, de nous avoir rappelé le souvenir d'André Frossard et pour ceux qui ne l'ont pas connu, de nous l'avoir fait découvrir. À bientôt.